Chapitre 55. Monastère Taungkalat, Monpopa, Birmanie.
Écoute-moi, Pangaya. S'il te plaît, écoute-moi.
Le président Galileo Nemrod s'était réintégré dans le temple du Monpopa, un mètre derrière sa fille. Jamais il n'avait vu les doigts de Pangaya s'agiter aussi rapidement. Ils dansaient à la même vitesse que les lignes de code qui défilaient sur l'écran, à un tel flux qu'elles étaient illisibles à l'œil nu.
« Je t'en supplie, Pangaya !»
Sa fille n'avait pas tourné la tête, ne lui accordait pas le moindre regard. Elle restait concentrée, à pianoter sur son clavier invisible, semblant posséder la capacité de déchiffrer ces séries de nombres s'enchaînant à un rythme supersonique. Mieux que cela, ces chiffres paraissaient sortir de son cerveau, comme s'ils étaient la traduction numérique de ses pensées. Les pensées de Misha filaient, elles aussi, moins rapides que celles de Pangaya, mais tout aussi pressées, mélangées, chavirées, toutes se bousculaient. Misha s'était également retrouvé téléporté dans le temple Taungkalat et avait directement atterri dans un lit médicalisé où étaient accrochées toutes sortes de perfusions, strictement identiques à celles du baldaquin qu'elle venait de quitter. Le même voyage que Nemrod du nid d'hirondelle au mont Popa. Ce château que le président pensait inviolable, y compris par sa fille. Galileo, pensa Misha, je crois que tu as encore sous-estimé Pangaya. Dès que la jeune Coréenne s'était réintégrée, Darn Kat avait sauté dans les draps et ronronnait déjà dans ses bras. La capitaine ne le repoussa pas, même si le chat pesait de tout son poids sur son cœur recousu. Nemrod s'était-il vraiment cru à l'abri dans son nid? Avait-il simplement pensé que sa fille n'avait aucune raison de se méfier de lui? Après avoir été secouru par les soldats en faction, libéré de ses liens, de son bâillon et reconnecté à son ordinateur quantique, Pangaya n'avait eu aucun mal à forcer l'espace tabou du château de son père et à les ramener, lui et Misha, au Monpopa. Elle ne pouvait pas se téléporter, elle ne pouvait vivre nulle part ailleurs que dans ce monastère, mais possédait le pouvoir d'y inviter de force, s'il le fallait, la terre entière. La réception de ce soir s'annonçait exceptionnelle. Pangaya était vêtue d'une longue robe indienne, pailletée d'or et d'argent. Une des gardiennes du temple, après l'avoir délivrée, avait sans doute dû l'aider à l'enfiler. Pourquoi porter une robe aussi élégante? Pour quelle cérémonie?
« S'il te plaît, » insistait Nemrod. « Réponds-moi, Pangaya !»«
Tais-toi, » suppliait Misha dans sa tête. « Tais-toi, laisse-la se concentrer !» La Coréenne n'avait rien oublié de sa conversation avec le président il y a quelques instants. Elle savait que des milliards de terriens étaient en train de se téléporter sur Tristan d'Acunha, cette île qu'un missile balistique ferait exploser dans moins d'une minute pendant que des centaines de nationalistes avaient décidé de foutre le bordel dans des dizaines de points de la planète. Alors fous la paix à ta fille, laisse-la travailler, laisse-la sauver ce qui peut encore être sauvé, réparer tes conneries, et ensuite, seulement ensuite, tu t'expliqueras avec elle. Le téléphone antique accroché à sa poitrine avait glissé dans les plis du drap. Ensuite seulement, Galileo, s'ouvrira ton procès. Ensuite seulement, tu lui ouvriras ton cœur si ta fille accepte de l'écouter. Elle a tout entendu, Galileo. Toutes les atrocités que tu as commises depuis des années. Tu as fait assassiner ses parents. Tu as oublié de parler de sa maladie au médecin, à l'âge où elle pouvait encore être soignée, une maladie qu'elle avait contractée pour toi, pour ce papa qu'elle aimait tant. Ce papa qui n'aimait personne pourtant, ou la terre entière peut-être, mais aimait tout le monde, c'est n'aimer personne. Galileo Nemrod fit un pas supplémentaire vers sa fille. Il lui suffisait de lever le bras pour la toucher. Elle ne semblait même pas l'avoir remarqué, comme si elle n'avait entendu aucun de ses pas, aucun de ses cris. Comme si elle avait plus urgent, plus important à faire que d'écouter sa pitoyable plaidoirie. Comment le président allait-il réagir? Crier encore, plus fort, s'effondrer, pleurer? Ou comme il l'avait toujours fait, agir? Comme Victor Kapp l'avait fait à la même place il y a quelques heures? Accrocher ses deux mains au fauteuil, le faire pivoter, arracher tous les fils et forcer sa fille à le regarder, à l'écouter? Le président paraissait au bord de l'hystérie. Son bras, soudain, se raidit. Il semblait avoir décidé de faire preuve d'autorité. Pangaya était sa fille, elle devait lui obéir. Misha se figea. Nemrod allait gifler Pangaya. La capitaine coréenne l'avait compris. En cet instant où le destin de la Terre se jouait, il allait sacrifier l'humanité entière pour son honneur de père bafoué. Que pouvait-elle faire? Allongée sur son lit, incapable de se lever, statufiée telle Vishnu, Sarasvati ou Mintara pour de vrai cette fois. Nemrod lança une ultime sommation.
« Pangaya, retourne-toi !»
Pas un geste, pas un regard. Les doigts de Pangaya pianotaient dans le vide.
« Je ne le répéterai pas !»
Même pas de cliquetis sur un clavier, seulement le silence et l'indifférence. Nemrod posa ses deux mains sur le fauteuil. S'il le faisait pivoter, tous les fils qui reliaient Pangaya à l'ordinateur seraient arrachés. La plus puissante de toutes les terriennes, la seule à pouvoir éviter une tragédie planétaire, ne serait plus qu'une femme paraplégique, impotente et dépendante. Misha hurla. Darn Cat sursauta, griffe plantée dans sa chair à peine cicatrisée. Artem avait anticipé. D'un mouvement rapide et précis, avant que Nemrod ait pu esquisser le moindre geste, le commandant ceintura le président. Il le força à reculer, sans violence, avec prudence, tout en maintenant ses bras en étau. Le vieil homme n'avait pas la force de résister. Il n'eut pas d'autre choix que de laisser Pangaya travailler. En silence, cette fois. Elle continua, au même rythme, indifférente aux cris et à l'agitation. Misha parvint à se redresser d'une poignée de centimètres pour mieux admirer la froide détermination d'Artem, sa force rassurante, même si davantage que les pattes de Darn Cat, sa seule présence lui griffait le cœur. Elle pressa plus fort encore contre elle la boule de poils ronronnant sur son lit. Artem avait été téléporté dans le temple quelques secondes après elle. Misha s'en était à peine étonnée. Elle était née avec la téléportation humaine et trouvait naturel qu'autour d'elle des hommes ou des femmes apparaissent ou disparaissent sans cesse. Avant que son cœur ne bondisse, Artem n'était pas seul. Devant elle s'était matérialisé un être à quatre jambes, deux têtes, un seul tronc, quatre bras enlacés. Elle avait mis plusieurs secondes avant de comprendre que le commandant était accroché à cette Cléophile Oiselle. Une jolie femme. Pas une gamine comme elle. Misha embrassa son chat. « Viens, Darnie, viens dans les bras de Misha. » Galiléo Nemrod, libéré par le commandant, s'était reculé. Il marchait à pas rapides et désordonnés dans le temple surveillé par Artem, toujours posté en rempart devant Pangaya, et par Moon King, perché sur l'étagère aux tortues. Nemrod avança vers le singe et, d'un brusque revers de main, balaya toute une rangée de la collection. Les carapaces de nacre, de verre, de cristal explosèrent dans un vacarme épouvantable. Pangaya ne broncha pas, comme si après avoir perdu l'usage de ses jambes, ses oreilles à leur tour l'avaient abandonné. 11h59. Les chiffres défilaient toujours sur l'écran. Les doigts de Pangaya jouaient une frénétique et interminable symphonie. Sans partition. Une formidable improvisation qui ne fournissait aucune réponse aux terrifiantes questions que chacun se posait. Où s'étaient dispersés les assignés? Combien d'êtres humains s'étaient téléportés sur Tristan d'Acunha? Quand le missile d'Ossian allait-il exploser? Quelques secondes supplémentaires s'écoulèrent. Le temps qu'Artem prenne la main de Cléo, le temps que Misha écrase Darnie contre son cœur, le temps que Galiléo Nemrod shoote dans les débris de tortue, provoquant les cris de colère de Moon King. Avant qu'enfin, Pangaya fasse pivoter son cou et se tourne vers eux. Dans son dos sur l'écran, des chiffres continuaient de tourner, sans elle. « Voilà !» fit Pangaya tout sourire. « C'est fait !» Elle paraissait soulagée. Son visage ressemblait à celui d'une enfant qui vient de finir ses devoirs et referme son cahier. Nemrod s'approcha sans oser s'exprimer. Les tortues brisées crissaient sous ses pieds. Pangaya continua de parler sur le même ton apaisé. « Je pense que je vais laisser à cette terre un assez joli souvenir. Plus joli encore que la nouvelle Babel que tu as imaginée, papa. J'aurais aimé que tu le voies. » Nemrod n'était plus qu'à un mètre de sa fille. Artem se tenait prêt à intervenir. Le président tremblait, voûté, comme portant une charge trop lourde pour lui, un poids soulevé à bout de bras pendant des années qui soudain l'écrasait. Il n'avait plus rien de commun avec le grand-père rassurant que 10 milliards de terriens connaissaient. « Pangaya, chut !» Ne dis rien, papa. Surtout, ne parle pas. » Pangaea souriait toujours, sans accorder le moindre regard à son père. Elle se tourna vers Misha. Le sari d'argent de la paraplégique étincelait, comme celui de la plus belle des princesses indiennes. « Je te confie, Monkey. Je suis certaine que Darny et lui finiront par s'aimer. C'est une chose si étrange, l'amour. La seule chose qui ne se programme pas. » Elle glissa un coup d'œil furtif aux chiffres qui défilaient sur son écran. Ses pupilles humides brillaient du même éclat que sa tenue princière. « Prends soin de toi, Misha, » murmura Pangaea. « Tu as tellement embelli ma vie. » La capitaine coréenne allait protester, mais déjà Pangaea s'adressait à Artem et Cléo. « Commandant Akinis, je suis persuadé qu'il existe une façon non totalitaire, non mensongère de défendre un monde libre et sans frontières. Les dernières lignes de l'algorithme que je viens de programmer détruisent intégralement le programme Pichipoy. Dans quelques minutes, il sera à nouveau impossible de téléporter quelqu'un contre sa volonté. Article 4 de la Constitution. » Elle sourit encore, faillit se tourner vers son père, mais finalement retint l'infime rotation de son cou. Il faudra des années avant que des ingénieurs parviennent à le reprogrammer, s'ils le souhaitent, ou si on leur en donne l'ordre. Mais avant cela, je me suis, disons, un peu amusé. Quelques lignes de code. Je crois que tout est en ordre maintenant. Pangaea fit pivoter son fauteuil une dernière fois. À nouveau, face à son papa. Ses yeux noirs se connectèrent à ceux de son père, parfaitement immobile, noyé par un océan de souvenirs qu'aucune larme cette fois ne venait agiter. Alors que ses doigts doucement se soulevaient. Quelques chiffres, lents, sur l'écran. Misha comprit immédiatement.
« Non !» hurla-t-elle. « Non, Pangaea, pas toi! Tu n'as pas le droit, tu n'y survivras pas !»
Galiléo Nemrod avait comblé le dernier mètre qui le séparait de sa fille. D'un geste sec, Pangaea arracha les fils qui la reliaient à l'ordinateur. Elle eut la force d'attraper la petite tortue de quartz rose posée à côté, mais ce fut au prix d'un effort surhumain. Sa main retombait déjà comme une feuille morte. Galiléo la retint. « Viens, papa, » murmura Pangaea. « Viens. » L'instant d'après, ils disparurent.